Attention, l'œuvre que vous allez entendre est immorale et peut choquer les personnes de tout âge. Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Pour le déjeuner, il retrouve son frère à la salle à manger avec la famille. Le frère furieux lui demande où il était. Frédéric ne répond pas. Eric est furieux. Après le repas, il ne lâche pas d'une semelle. Et Winner Park, tu es à moi. Je veux tout savoir ce que tu fais. Frédéric lui dit, mais je ne suis plus un enfant. Je veux être libre. Où est-ce que je m'occupe de ce que tu fais? Eric lui dit, tu es à moi. Je ne suis pas ton esclave. Eric lui dit, c'est moi qui l'ai voulu. Frédéric lui dit, et moi? Je ne veux plus. Il donne un coup de poing, qu'il renverse à terre. Et il tombe sur lui. Mais Eric le retourne. Il se trouve emprisonné par son frère, qui est plus fort que lui. Eric lui dit, tu es à moi, rien qu'à moi. Tu ne le sens pas? Tu es à moi. Il met la main entre les jambes. Frédéric, d'un geste brusque, lève la jambe, donne un coup au ventre et aux cuisses. Eric le fait tomber à la renverse, d'un bond. Frédéric se relève et se met à courir. Eric se relève et lui court après et lui crie. Petit salaud, va, tu vas me le payer. Frédéric court. Il n'en peut plus. Il court. Tout d'un coup, il se sent pris par le collet. Il se sent soulevé par derrière. et se retrouve la tête la première sous le corps de son frère. Il le retourne. Il est face au soleil. Et ça lui fait mal aux yeux. L'ombre du visage de son frère, à contre-jour, qui lui dit « Tu vois que tu es à moi, rien qu'à moi. » Son frère lui tient ses bras en dessus de sa tête. Il est essoufflé. Frédéric se sent là. La course a fatigué. Eric, d'une main, défait la ceinture de Frédéric. De l'autre, lui maintient les deux mains au-dessus de sa tête. Une demi-heure plus tard, son frère est parti. Frédéric se relève, range ses vêtements, les dépoussière et décide de rentrer chez lui pour se laver. Son frère devient de plus en plus violent avec lui et de plus en plus sûr de lui. Un jour, il le jette dans le lac et l'empêche de sortir du lac pendant une demi-heure. Frédéric était épuisé et glacé. il ne dit rien. De toute façon, ça ne sert à rien. Une fois, il a essayé, sa grand-mère lui a dit, « Ce sont des enfantillages. Les garçons sont toujours violents entre eux. Ça forme le caractère. Toi, tu manques de caractère. C'est bon pour toi. » Alors, il vaut mieux ne rien dire et laisser passer les choses. La mère, Antoinette, passe son temps dans sa chambre, sort de son lit pour aller dans un fauteuil près de la fenêtre. Personne ne vient la voir. Elle en a pris l'habitude, regarde à la fenêtre, elle attend. Elle sait qu'entre les garçons, ça ne va pas du tout. Mais que faire? Elle se fait du souci pour l'avenir de son mari aussi. Il est trop dépendant de ses parents, ça n'est pas bon. Elle est triste que son fils Frédéric soit fâché contre elle. Elle aimerait se réconcilier avec lui, lui dire qu'elle l'aime. Elle continue à s'affaiblir. Mange toujours aussi peu. Le médecin vient la voir comme à Paris une fois par mois. Il lui donne quelques remèdes. Des comprimés contre la douleur, rien de plus. En partant, il reçoit d'Auguste un bon prix. Le prix du déplacement, la visite, plus un petit quelque chose pour le remercier de ne rien faire. Pour faire un bon petit supplément à son salaire. Antoinette voit le jour passer et sa vie la quitter de jour en jour. Elle ne dit rien, mais sait qu'elle s'en va. Elle se dit que sa vie est une vie qui s'est arrêtée le jour où elle a hélas rencontré Pierre. Pierre, le faible, qui se laisse mener par ses parents. Elle a fait l'erreur de demander de l'aide à sa belle famille pour son mari. Sa belle famille qui s'est vengée sur elle et ses enfants. Ses enfants qui ne l'ont pas vraiment aimé et connu et qui vivent comme des sauvages. Elle voit bien de sa fenêtre les deux frères se battre. Ils se battent pas pour le plaisir, mais par haine. Elle a gâché sa vie, son mariage raté, ses enfants perdus, et elle qui se dépérit. Elle ne sait même pas de quoi elle est malade. La mort ne lui fait pas peur. De toute façon, elle ne vient plus. Elle ne vit plus depuis longtemps. Après cette langueur, ces douleurs tenaces, elle ne peut rien faire, même pas se nourrir correctement. Tout la fatigue. La lecture, le tricot, la musique. Elle est obligée de rester des heures assise ou allongée sans rien faire. elle est déjà morte. Elle croit en Dieu, mais pas à l'éternité, à la vie, après la mort. Ce n'est pas illogique de ne pas croire en la vie après la mort et de croire en Dieu. Ce sont deux croyances différentes ou deux façons de voir la vie. Un Dieu peut créer la vie, mais une vie mortelle est définitivement mortelle. D'ailleurs, pourquoi donnerait-il une deuxième vie et éternelle? Il se compliquerait les choses, ce ne serait pas logique. Si c'est pas donner l'éternité, si c'est pour donner l'éternité, autant la donner de suite. Vous me direz qu'il fait ça pour faire un tri, pour juger les bons et les méchants. Mais ce tri, il peut les faire à l'instant, et non après, et juger de suite, et non par contumace, si l'on veut. Et si Dieu a inventé la mort, c'est pour être pratique, logique. S'il a donc la possibilité de la reproduction, à ce qu'il vit, comme la terre est grande mais ne s'agrandit pas constamment, on ne peut pas agrandir l'espace au fur et à mesure que la population grandit. Il faut que la génération remplace les autres. Donc la mort est indispensable. Ce qui est vieux, hors d'usage, démodé, doit être remplacé et disparaître. Donc un Dieu logique a créé la mort et l'éternité est illogique et ne sert à rien, sauf à donner courage aux gens qui vont mourir. Et puis, il faudra un paradis et un enfer drôlement grand pour mettre tous ces gens. Et comme il serait éternel, il se multiplierait à l'infini. C'est impossible et stupide. Et c'est pourquoi Antoinette croit en Dieu sans la vie éternelle. Mais la mort sans résurrection ne lui fait pas peur. Elle se dit que le hasard lui a donné la vie et le hasard la lui reprend. La vie, c'est un passage qui aboutit à ce que nous étions, rien. Voilà ce que pense Antoinette durant ses journées. Elle aime regarder le ciel, les nuages bouger, les oiseaux voler. Le ciel hypnotise, ça fait rêver. Elle ne s'ennuie pas entre ses pensées, sa souffrance, les bruits de la vie, les paroles qu'elle entend. Elle se sent enfermée prisonnière dans cette tour, prisonnière par sa famille et sa maladie, mais elle ne s'ennuie pas. Les jours passent. Amélie reçoit beaucoup. L'après-midi, ses amis qui habitent les environs, des amis qui viennent passer les vacances comme elle, des personnes qui s'ennuient, Les vacances à la campagne, c'est bien, mais il ne se passe pas grand-chose. Alors, pour se désennuyer, l'on va les uns chez les autres, discuter, prendre le thé. Des fois, Amélie organise une soirée pour inviter ses amis. On dit amis, mais ce sont des connaissances, des gens qui sont bien, enfin bien, c'est-à-dire du même milieu que nous. Auguste la laisse organiser ses soirées. Ça lui permet, lui aussi, de voir des gens qu'il ne verrait pas et qui, c'est... peut servir pour l'avenir. Amélie demande aux deux garçons d'y être, parce que ça fait bien d'avoir de la jeunesse au milieu de tous ces adultes d'un certain âge. Elle leur dit au dîner, « Je compte sur vous !» Éric lui dit, ça ne m'intéresse pas du tout, et Frédéric non plus. Amélie lui dit, je tiens à ce que tu y sois. Il lui demande, pourquoi? Elle lui dit, parce que ça fait de la jeunesse, c'est bien dans une soirée. Éric lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse à tes soirées? Il n'y a que des vieux. Elle lui dit, pas si vieux que ça. Il lui dit, tiens, ta copine, celle qui a une tête de cheval et habillée en carnaval, celle qui court après les gamins, eh bien, elle doit avoir au moins, je ne sais pas moi, elle a connu les Pontois, ça fait peut-être 80 ans ou plus qu'ils sont morts, non? Elle lui dit, tu exagères, c'est pas une momie. Il lui dit, presque, lorsqu'elle cherche à vous embrasser sur les lèvres, elle sent une drôle d'odeur. Amélie hausse ses épaules et lui dit, « C'est un parfum, Chanel tranché. Parfum âpre. » Éric rit et dit, « Elle a fait la garde 14 ?» Elle lui dit, « Mais non. La dernière, Chanel avait lancé ce parfum très sensuel et elle l'a gardé. » Soit disant, ils attiraient les jeunes soldats. Éric lui dit, je ne veux pas m'ennuyer à ta soirée avec des momies. Elle lui dit, si tu n'y vas pas, je te coupe ta carte et à ton frère aussi. Frédéric lui dit, mais moi je n'ai rien dit. Elle lui dit, alors tu es sage de vouloir participer à ma soirée. Il ne dit rien. Mais lui aussi, ça ne l'intéresse pas. Lui, Pierre, s'en moque. Depuis qu'il a perdu Judith, il broie du noir et passe ses journées à marcher seul dans les bois. Il en a assez de cette vie. Amélie lui dit, Pierre, mon chéri, n'oublie pas de mettre ton smoking avec ton nœud papillon blanc. Pierre est furieux. Elle le traite encore comme un gosse, comme ses dos. Elle ne voit pas la différence qu'il y a entre lui et ses fils. Il en a marre et se dit qu'on devrait le laisser tranquille. Tiens, comme sa femme. Elle est au moins tranquille. On ne vient pas la déranger. Elle est dans sa chambre. Personne ne lui demande rien. Tiens, il devrait vivre comme ça. Comme ça. C'est très bien. Quelle joie. Tout le monde est en ébullition dans le château pour cette satanée soirée qui est devenue la soirée du siècle, sauf pour les grands-parents. Les domestiques ne savent plus où donner de la tête. déplacer les meubles, tapis, mettre des lampadaires dans les allées du parc, préparer les boissons, les buffets. Tout prévoir. Le soir de la soirée, tout le château est illuminé. Toutes les pièces sont illuminées. On a préparé un camp dans une pelouse du parc pour les voitures. Les gens commencent à arriver à 21h. Frédéric est furieux, s'est habillé en smoking, sort de sa chambre à 21h30. On entend déjà le bruit de la foule. Dans le couloir, il rencontre son frère. Il lui dit « Tiendra tranquille, j'espère. Sinon, lui pince le bras. » Frédéric hausse les épaules. Ils descendent tous les deux les escaliers pour aller au premier où la fête a lieu. Lorsqu'ils arrivent, il y a déjà beaucoup de monde. Eric dit « Décidément, grand-mère connaît beaucoup de monde. » Il regarde autour de lui. Il dit à Frédéric, « Toi, reste sage. Pourquoi dis-tu ça ?» Il se retourne et voit une jeune fille blonde, grande, mince, la sympathique, assez belle. Elle porte une robe du soir jaune. Il lui dit, « Parce que c'est mon frère. » Elle lui dit, « Et tu dois t'occuper de lui ?» Il lui dit, « Oui. » C'est-à-dire qu'il fait des bêtises. Elle lui dit, viens avec moi et laisse ton frère faire des bêtises. Il a bien le droit d'en faire avec les yeux qu'il a. Elle le prend par le bras et lui demande, où tu m'emmènes? Elle lui dit, je vais te présenter à des amis. Viens. Elle le mène à un groupe de jeunes gens, de jeunes filles, qui sont dans un coin du salon, avachis dans des fauteuils. Il leur dit, je ne savais pas qu'il y avait des jeunes dans cette soirée. Elle lui dit, il y en a, mais ils ne se montrent pas trop au milieu de tout ça. Moi, c'est Adélaïde. Il lui dit, drôle de nom. Elle lui dit, je sais. Mais c'est mes parents, ou plutôt ma grand-mère, qui avait un chic pour un chanteur qui aimait une dénommée Adélaïde. Alors, et toi? Moi, c'est Eric. Je suis le petit-fils de celle qui vous a invité. Elle présente les autres jeunes gens, jeunes filles. Ils sont tous en vacances dans l'environ et leurs parents ont une très bonne situation. Les jeunes filles trouvent joli garçon Eric, même les garçons. Ils restent avec eux, fait danser les filles. Il est fier d'être le roi de la fête. Fait danser les filles le trouvent charmant. Parce qu'il est fait homme. nous vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.